Bonjour à tous, bienvenue sur Radio U. Aujourd'hui, l'émission est en direct du foyer laïque de Sama. Merci à vous, le public, d'être venu. On a travaillé 4 jours pour cette deuxième émission. Aujourd'hui, on va interviewer Marianne, qui est ancienne coordinatrice jeunesse sur un quartier brestois, et Florent, alias Flo, artiste rappeur, ancien jeune de quartier où travaillait Marianne. On a déjà enregistré un son avec Flo qu'on va écouter juste après. On accueille Mathieu Favenet qui est psychologue à la maison des quartiers, à la maison des adolescents à Brest, qui va arriver juste après. Et on accueille Alain Juisse, adhérent au foyer laïque de longue date. On le surnomme le dinosaure. Bonjour Alain.
Bonjour.
Maintenant, je vous laisse avec Lucas pour la première chronique.
Moi, c'est Lucas. Je suis délégué d'une classe de 5e à Liroise. Je me lève à 6h pour commencer à 8h. Parfois, j'ai 3 contrôles pour le lendemain. La plupart des profs sont tous fatigants. Ils crient trop pour rien. Ils prennent ton carnet sans trouver aucune raison. Ils donnent des punitions plus au hasard plutôt qu'en global. Les surveillances sont aussi embêtantes. Mais peut-être que c'est à cause des élèves. Les infirmières n'appellent jamais les parents quand on est malade. Nous sommes 29 dans la classe et je trouve que les relations entre élèves sont plutôt bonnes. Ce qui est bien, c'est que le sport pourrait peut-être m'apprendre des choses qui me serviraient pour plus tard. Je trouve que les plats du shelf en général sont bons comparés à ceux quand j'étais en primaire. Il nous arrive aussi de nous ennuyer car on ne peut pas faire de sport dans la cour quand il pleut. On est tous entassés dans le hall. En AS, j'aimerais bien que la boxe soit proposée car j'aime bien les sports de combat. Le système scolaire est fatigant pour tous les élèves, moi en particulier. Et si j'avais des propositions, par exemple commencer tous les jours à 9h, moins de contrôle et moins de devoirs à la maison, car j'ai jamais de temps pour me poser, et qu'il y ait plus de voyages scolaires.
On accueille maintenant Alain Juisse. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs et aux spectateurs qui sont aussi dans la salle du foyer laïque de Saint-Marc aujourd'hui. Alors oui, j'ai 78 ans et ça fait 63 ans que je suis au foyer laïque de Saint-Marc, où j'ai assumé plusieurs responsabilités, plusieurs rôles, et j'ai fait aussi beaucoup d'activités tout au long de cette longue période, depuis 1963. 1963 plus 63, ça fait 2026. Et on va peut-être se poser des questions de ce que deviendra le foyer dans 63 ans après tout. C'est à vous aussi peut-être de répondre à cette question-là.
Comment avez-vous découvert le foyer laïque de Saint-Marc ?
Oh, c'est très simple. J'avais un copain qui était, dont le père était président du foyer laïque, et on était au lycée technique ensemble. Et un jour, il m'a dit « Viens faire du tennis de table au foyer ». Et depuis ce jour-là, ben, j'y suis toujours et j'y suis resté. Et j'ai appris les différentes responsabilités depuis. Et à cette époque-là, eh bien, on faisait... il y avait une salle un petit peu du même style que celle qui est en cours, qui était réalisée, ou celle que vous occupez actuellement, c'est-à-dire une salle des ados. Et ça s'appelait à ce moment-là la salle des jeunes, qui s'est transformée par la suite en club de jeunes.
Que faisiez-vous au début du foyer laïque de Saint-Marc et que faites-vous aujourd'hui ?
Alors au début, ben, comme vous, on faisait un petit peu de différentes activités qui étaient celles des jeunes de l'époque. On faisait beaucoup de tennis de table, il y avait baby-foot, il y avait des flippers aussi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des flippers, c'est peut-être pas sûr, hein. On pourrait peut-être faire une description. Il y en a peut-être ici qui pourraient faire mieux que moi, qui pourraient décrire ce qu'était un flipper. Un jeu électronique qui était assez nouveau, qui était vraisemblablement d'une création anglaise ou américaine. Et c'était aussi cette occupation-là. On avait une bibliothèque, on avait un bar, et on avait un bar sans alcool. Il y avait un labo photo qui avait été construit ou aménagé par les bricoleurs du foyer. Et la photo, à ce moment-là, c'était noir et blanc, exclusivement noir et blanc.
Que vous a apporté le foyer ?
Beaucoup de choses. Après avoir eu différentes activités, où on faisait quand même différentes choses. Et j'aurais dû peut-être rappeler aussi un moment important du club de jeunes où on avait constitué une troupe de théâtre, comme une troupe de théâtre et des activités dites de variété, où il y avait des danses. C'était pas des danses de hip-hop comme Marianne sait le faire maintenant. C'était des danses grecques, c'était des danses russes, c'était des danses irlandaises, des danses bretonnes vraisemblablement. Je m'en souviens plus trop bien, mais voilà, c'était ça. Et il y avait aussi des petites scènes de théâtre, et on jouait dans les différentes écoles publiques de la région pour soutenir l'école publique, l'école laïque. C'était ça, en fait, au départ. Voilà. Et par la suite, alors, ce que j'ai fait, ben, je peux dire que j'ai fait pratiquement toutes les, toutes les activités. Enfin, j'ai fait beaucoup d'activités du foyer. Et elles étaient beaucoup moins nombreuses à cette époque-là, mais elles étaient quand même assez importantes. Et le basket prédominait. Et par la suite, il y a eu un développement de différentes activités lorsqu'il y a eu des installations qui ont été réalisées également. Parce que c'était important. Il y avait très peu d'installations sportives dans la ville de Brest à ce moment-là. Et on a eu un premier plateau qui a été construit sous pression de ceux qui étaient de l'école publique et qui se situe rue de Tunisie maintenant pour ceux qui habitent le quartier. C'est devenu un parking, mais à ce moment-là, c'était une aire de sport qui était très très utilisée tous les jours de la semaine.
Avez-vous participé à des projets au sein du Foy Lake?
Énormément, bien sûr. Ouais. Alors différents projets, on peut dire que j'ai contribue à la réalisation de pas mal de choses. Mais bien sûr, je ne suis pas seul au foyer. Nous sommes extrêmement nombreux. On est actuellement environ 150 bénévoles qui agissent tout au long de l'année, enfin, à différents moments de la journée ou de la semaine. Et on est en même temps une structure de direction, qu'on peut appeler ainsi, où il y a des personnels qui sont salariés, des personnels dans l'association, et il y en a d'autres qui sont des bénévoles, des militants qui agissent et qui essayent de développer le foyer et faire en sorte que vous-même, vous puissiez faire toutes sortes d'activités.
Lors de la réouverture du local jeune, quel était votre avis dessus ?
Mon ?
Votre avis sur la réouverture du local jeune ?
Oui, c'est une bonne question. Il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là. Le local jeune a été assez à géométrie variable, on pourrait dire. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, j'étais assez favorable, mais il fallait absolument que les conditions soient réunies, qu'il y ait un encadrement qui soit le plus présent et précis possible. À une époque, quand nous avons commencé en 1963 ou en 1965, on était assez libre. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas de professionnel, il n'y avait personne pour nous surveiller, entre guillemets. Quand je dis surveillance, c'est aussi accompagnement. Et on était, malgré tout, il y avait régulièrement des anciens qui passaient voir ce que l'on faisait, pour voir si on ne faisait pas de conneries, comme on pourrait dire. C'était ça à cette époque-là. Et maintenant, on a considéré qu'il fallait absolument organiser quelque chose dans cette dimension-là et de créer les conditions que vous puissiez avoir véritablement des activités, qui soient des activités classiques que vous faites assez régulièrement, pas avec Solveig ce que vous faites en activité sportive, mais en même temps de développer d'avoir en perspective de développer véritablement des projets. C'est-à-dire un sang d'éteint aujourd'hui, ce que je trouve formidable, c'est ce que vous avez réussi à faire en quelques jours, parce que moi je vous ai vu lundi et aujourd'hui, c'est pas du tout, vous n'êtes plus du tout pas du tout les mêmes, je veux dire, vous avez vraiment évolué, on sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise derrière le micro ou devant le micro, suivant comment on se présente, mais c'est ça l'idée. Et moi je crois que cette initiative là, il faut la reconduire. C'est pas uniquement d'aller faire des activités pour faire des activités. Moi je suis pas contre le fait que vous alliez de temps en temps à la patinoire ou bien que vous alliez à la récré des Trois Curés, mais au contraire, c'est ça qui doit être développé, qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire ça vous grandit, comme je dirais. Et donc l'initiative qui est envisagée pour la fin de l'année avec la maison de quartier de Lambézélec, de construire avec vous un départ en vacances, je crois que vous avez pris l'initiative plutôt d'aller vers le Portugal, si je comprends bien, quelques jours au Portugal. Moi je crois que ça veut dire c'est ça véritablement le sens, parce que vous allez être confronté à tout ce dont on doit savoir faire pour partir en voyage, pour organiser un voyage. C'est pas simple, on dit pas on monte dans l'avion, on atterrit et puis après on sait pas ce qu'on fait. Donc il faut construire tout cela, et moi je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est que vous soyez vraiment dans une configuration où on puisse vous accompagner, mais vous dire aussi comment faire et comment vous devez faire par vous-même. C'est ça l'intérêt, justement. C'est comme ça que l'on apprend les choses. En dehors du temps scolaire, il y a des choses qui peuvent être apprises, énormément de choses qui sont bien sûr apprises pendant le temps scolaire. Et même si moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Lucas tout à l'heure sur la question du temps scolaire, ça me semble important qu'il y ait quand même des choses qui soient réalisées et le mieux possible, le plus intéressant possible. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la durée de la scolarité au collège. Moi, je crois que Les collégiens ne sont pas si fatigués que ça quand on les voit remuer comme une remue. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin bref, ça se discute bien sûr et on pourrait en discuter encore. Mais il y a des choses à faire et à créer les conditions que le temps de loisir, celui que vous vivez aussi aujourd'hui au foyer, comme d'autres dans notre structure de quartier de la ville de Brest, et ça a besoin d'être accompagné. Et je crois qu'il y a la famille d'un côté qui peut vous éduquer sur un certain nombre de choses. Et il y a l'école, bien sûr, qui est très, très importante. Mais à côté de l'école, il y a des choses qui peuvent être faites et qui peuvent accompagner les enfants et les jeunes. Moi, je suis complètement favorable à cette dimension-là.
Pour vous, qu'est-ce que le local jeune apporte au foyer ?
Ah ben justement, de la vie. C'est de la vie. Il faut absolument qu'il y ait des jeunes au foyer. Alors, quelquefois, moi, je dis, je ne suis pas toujours très d'accord que vous soyez un peu isolés. D'un côté, il y a les enfants qui sont ici, au foyer. Il y a les vieux, ceux qui sont de mon âge, qui font de la poterie, qui font différentes activités. Et puis vous, vous êtes un petit peu à l'écart. Donc ça m'interpelle un peu. Mais on n'est pas toujours en accord dans la direction du foyer. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse à. Et que vous soyez peut-être un peu plus présent dans le hall. Même si ça fait du bruit, ben, ça n'a pas d'importance.
Et pour finir, est-ce que vous pensez que le foyer a-t-il évolué dans le bon sens ?
Oh oui. Je pense, oui. Quand j'ai commencé, bah, tu vois, on était peut-être... je crois qu'il y avait un des militants du foyer, qui est un des responsables du foyer, qui avait dit on pourrait mettre l'ensemble des adhérents du foyer dans un seul quart, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes ou 70 ou 80 personnes. Or, maintenant, il y a 1000 adhérents au foyer, 1000 adhérents dont vous faites partie. Et parmi ces 1000 adhérents, bien sûr, il y a en plus certaines personnes qui font une, deux, voire trois activités, quelquefois plus. Donc je crois que c'est important. Dans la vie du quartier, le foyer a tout son sens. Il est là depuis un siècle maintenant, puisque ça fait... Il a été construit, comme c'était indiqué là. Et en fait, cette année, c'est 100 ans. Et voilà, ça fait partie des choses. Et j'espère que le foyer va durer encore plusieurs décennies. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette initiative qui est prise là, on devrait se poser la question, que sera le foyer dans 63 ans ? Puisque ça fait 63 ans que j'y suis, je me dis, en 2080, que sera le foyer ? Et ce que je voulais vous dire, en même temps, c'est que ces locaux-là, dans lesquels nous sommes, ce sont des locaux municipaux. Et c'est des locaux municipaux qui sont en gestion, si on peut dire, par des bénévoles, par des militants de l'association. Et ces locaux-là, on en dispose encore pendant 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 1980, un bail, c'est-à-dire un droit d'occupation de ces locaux-là, pendant un siècle, 99 ans exactement. C'est un bon assez barbare qui est employé. Je ne vais pas le citer ici, mais je vais le dire quand même, c'est un bail emphytéotique, 99 ans d'occupation de ces locaux-là. Et donc, dans 50 ans, vous serez encore en capacité de pouvoir utiliser les locaux dans lesquels nous sommes. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Alain. Je vais maintenant passer la parole à Shaina.
Est-ce que le public a des questions ?
Bonjour Alain.
Bonjour Michel.
Donc tu dis que tu es au foyer depuis 63 ans. Voilà, c'est un bail. Tu as connu beaucoup, beaucoup d'anniversaires. Et cette année, le foyer fête ses 100 ans. Et je voudrais savoir ce que ça représente pour toi. Est-ce que c'est un anniversaire comme un autre ou est-ce que ça représente quelque chose de particulier ? Et si oui... Est-ce que tu peux nous le dire, ce que ça représente ?
Ben c'est pour moi, 100 ans, c'est quelque chose. On entend bien ? Oui, 100 ans, c'est quelque chose. C'est pas la même chose que lorsqu'on dit on a 50 ans ou 60 ans. C'est vrai que j'ai vécu, tu sais, plusieurs anniversaires. Un anniversaire qui m'avait beaucoup marqué, c'était le 50e anniversaire du foyer. Parce que nous quittions les locaux dont le foyer était propriétaire, rue de Verdun, pas très très loin de la Poste, hein, là où se trouvent les compagnons bâtisseurs actuellement. Et donc c'était un événement important. Ce déplacement-là a été pour moi a bien marqué à un moment donné. D'ailleurs, j'ai eu les responsabilités de la présidence du foyer dans les années 80, et cet événement-là m'a beaucoup marqué. Mais je crois que tous ceux qui... Le 60e anniversaire également, parce que j'ai été président et ça a été quelque chose assez exceptionnel. Mais 100 ans, ça marque quand même quelque chose. Et on a, je crois, voulu faire que cet anniversaire soit marqué dans la diversité des initiatives. Et je crois que là-dessus, on va réussir quelque chose de magnifique. Et c'est... quasiment la première initiative vraiment que l'on a après le lancement qui a eu lieu à la fin du mois de janvier. Maintenant, on est en février avec cette initiative autour de la radio et des jeunes qui travaillent sur cette dimension-là. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Et on n'a pas fini, puisque le grand rassemblement des anciens et des nouveaux aura lieu au mois de mai, le 30 mai. Stéphane et d'autres, et toute une équipe travaillent sur cette initiative-là. Tout au long de l'année, il y aura des événements qui vont marquer le 100e anniversaire du foyer. Et on y travaille d'art, et on est une très très bonne équipe qui fonctionne et ça tourne. Et avec les professionnels du foyer, je crois qu'on va réussir quelque chose de bien. Alors, j'ai envie de dire une dernière chose. Je me dis que cette radio-là, cette initiative qui a été prise là, ça montre quelque chose d'important, tu vois, Michel. Moi, je crois que c'est des choses, des initiatives comme celle-là, avec ces jeunes, il faut qu'on reconduise ce type d'action, ce type de programmation, parce que ça leur permet de grandir, ce que je disais tout à l'heure. Et ils sont bien encadrés. Il y a Solveig, Théo et toute la bande. Je pense que c'est intéressant qu'on y contribue tous ensemble. Voilà, un bel anniversaire. 100 ans, c'est un bel anniversaire. Et ça marquera d'autres initiatives, je pense.
Moi j'ai une petite question. Les jeunes ont été marqués par leur séjour d'été à Camaret au mois de juillet. Et ils comptent partir au Portugal en octobre. Mais ces séjours ont un coût financier important. Et on a un soutien important des collectivités, notamment de la ville de Brest. Est-ce que ça fait longtemps que les jeunes peuvent partir en séjour à coût réduit avec le soutien de la ville de Brest? Alain?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'ai pas trop le souvenir, mais je pense qu'il y a eu dans les années 80, je pense, Hubert qui est là dans le public pourrait aussi peut-être m'aider à répondre à cette question-là. Mais je pense que à partir des années 80, on a eu des financements qui ont été octroyés pour. Mais je suis pas trop sûr. Tu vois, c'est vraiment. Je suis assez indécis sur cette réponse-là. C'est peut-être les années 90.
Marianne, je vais t'aider, Alain.
Tu vas m'aider.
Non, les premiers financements sur la ville de Brest concernant les jeunesses, notamment des quartiers populaires, ont été donnés par des opérations qui s'appelaient les opérations anti-été chaud. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça chauffait dans les quartiers, notamment ça avait chauffé dans la banlieue lyonnaise. Et donc, au niveau de l'État, il y a eu ce qu'ils ont appelé les vacances pour tous. Donc, tous les jeunes français avaient droit à des vacances, et pour ça l'État avait, pendant 2 mois d'été, mettait des financements relativement conséquents, mais uniquement ciblés sur les 2 mois d'été. Et ça a démarré, c'était 1983, et après 84, 85, d'accord. Et après maintenant, aujourd'hui, ces opérations-là, anti-été chaud initialement, s'appellent Ville Vie Vacances. Ah
oui. Merci beaucoup. Est-ce que y a-t-il d'autres questions? Je laisse la parole à Louane, du coup.
Aujourd'hui, les jeunes sont écoutés, mais parfois pas assez. Les jeunes peuvent être écoutés au sein d'un club, comme un club de sport, un club de musique, etc. Dans ce genre d'installation, les jeunes peuvent parler librement à leurs entraîneurs, leurs professeurs. Ils peuvent aussi exprimer leur avis au sein de leur famille et dans leur milieu scolaire. Mais parfois, ces deux solutions sont assez compliquées, car dans certaines familles, la parole de l'ado n'est pas prise en compte, et n'est pas la priorité. Dans le milieu scolaire, cela peut être aussi difficile de parler et de s'exprimer librement pour l'ado, car parfois, la peur d'être jugé prend le dessus et empêche l'adolescent de s'exprimer. Mais il y a quand même des adultes à qui les jeunes peuvent parler sans avoir peur d'être jugés, comme les infirmières scolaires, les psychologues, les surveillants et les professeurs. Malgré toutes ces personnes, parfois on n'ose toujours pas exposer notre vie ou parler. Pour améliorer l'écoute, le personnel scolaire doit être plus proche des élèves. Au local, on peut s'exprimer librement et être écouté par les animateurs comme Solveig, Eline et Tom. Nous allons maintenant écouter le rap du foyer.
Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Au quartier, personne ne détrône. Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Plus tard, on chantera au vélodrome.
Au quartier, on fait que des bêtises. Les gens pensent que c'est paisible. Mais rapidement, ils regrettent. Car on leur donne mal à la tête. À force de crier, ils pensent qu'on est des meurtriers. Mais grâce au local, on devient adorable.
Dans le quartier, on fait des dingueries. On vole à l'intérieur, on casse des vitres. Depuis que Solveig est là, ça a changé. Je pense que le local m'assagit.
Zone répartie, dès qu'on sonne, faut courir. Les voisins crient, on est mort de rire. T'es grillé au terrain, quand tu pleut, c'est l'horreur. Ça glisse, tu peux tomber par terre.
Dans le quartier, ça fait des conneries. J'ai volé la gourde à Camille. À Intermarché, j'ai descendu la montée. En caddie, j'ai failli me ramasser. Le local fait pas le fou, sinon tu vas voir flou. Je vais te faire des prises de kung fu. Au gymnase, tac le bas, sinon on sera pas sympa. Crois-moi, tu t'en souviendras.
Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Au quartier, personne ne détrône. Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Plus tard, on chantera au vélodrome.
Au terrain, c'est la galère. Le local nous fait changer d'air. Moi, Mounir algérien, très fier d'être maghrébin. Malgré ces crétins, faire des conneries, c'est la vie. J'ai pas besoin de leur avis. Au gymnase, y'a que des nazes. M'en fout, je suis un as comme Casillas.
Avec Maïka, y'a pas de débat. Ici, ça s'envoie à tout va. Elle fait la meuf, elle ressemble à un œuf. Elle raconte que des bluffs.
Dans le quartier, c'est le danger. Les mecs de cité ont changé. Tu peux finir la gorge tranchée. Ou sinon, te faire débrancher. Mais malgré tout, on rigole bien. On fait parfois des conneries avec les copains. Invincible comme Mayotte. Crois-moi, je suis plus solide que tes potes.
Dans notre vie, y'a plein de dingueries. Tout ce qu'on fait, c'est des conneries. Avec mes potes, on s'amuse. Tout le monde nous accuse, les voisins abusent. Dans la descente du parc, en caddie. Mes amis font partie de la fratrie. Comorienne est fière de mon pays. Face aux défis, tous les coups sont permis.
À Ponta, y'a que des dingueries. Ça lance des pétards, dit des conneries. On est là, on s'attend à tout. Dans le quartier, ça crie haram. Les cops, ils vont rien nous faire. On va les mettre à coups de fer.
Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Au quartier, personne ne détrône. Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Plus tard, on chantera au vélodrome. Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Au quartier, personne ne détrône. Boum boum, on fait trembler la zone. Chaque rime est une balle qui résonne. Zéro limite, on frappe comme des cyclones. Plus tard, on chantera au vélodrome.
Ce joli petit morceau qu'on vient de passer a été effectivement écrit par nous. Dans ce rap, on explique à quel point le local nous a assagi et nous a aidés dans notre quotidien. On explique que pour nous, le local est comme une deuxième famille, car on se soutient mutuellement. On explique que sans le local, on ne fait pas grand-chose, on s'ennuie un peu, et quand ça ne va pas, on va au local et ça nous fait changer d'air. Et maintenant, en ce moment, on a écrit un morceau avec Flo, qu'on va enregistrer après les vacances. Et maintenant, je passe la parole à Yosha et Shaina.
Bonjour Flo et Marianne. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases ?
Je commence, Yosha ?
Oui.
Donc, moi, je m'appelle Marianne. Donc, je suis actuellement à la retraite, mais j'ai pendant presque 40 ans travaillé sur un quartier brestois comme d'abord animatrice jeunesse et puis après coordinatrice jeunesse. Donc, j'ai travaillé toutes ces années sur le même quartier avec deux générations de jeunes.
Salut tout le monde. Alors, moi, c'est Flo. Mon nom de rappeur, c'est FLO. Je fais partie du groupe Médusa Glo, donc c'est une nouvelle formation. Et voilà, je suis habitant du quartier de Pédarcache. Et voilà, je viens parler un peu de mon expérience par rapport à voilà, la vie qu'on a menée au quartier, qu'est-ce que le centre social nous a apporté, tout ça. Mais je suis content d'être là avec vous.
Flo, pourquoi as-tu choisi ce nom comme nom d'artiste ?
Parce que je m'appelle Florent, Flo, FLO. J'avais un moment donné, je m'appelais La Plume, mais c'était pas tellement facile de trouver sur les réseaux. Donc j'ai rajouté un H pour qu'on puisse trouver. Voilà, c'est pas très, pas très créatif, mais disons qu'il m'a, j'ai trouvé ce nom à un moment donné et je l'ai gardé parce que c'est comme ça qu'on m'identifiait, quoi. Donc voilà.
Marianne, quel est ton métier?
Ah bah là actuellement je suis à la retraite. Hein.
Comment vous êtes rencontrés?
Alors moi, comme je disais, je travaillais donc sur le quartier de Pénard-Créache début des années 80. Flo, on s'est rencontrés, je pense, début des années 90. Mmh. Hein, ouais, donc à cette époque-là, la culture hip-hop arrivait en France, doucement. Par des danseurs, par des rappeurs, par des graffeurs. Et moi, en tant qu'animatrice jeunesse de l'époque, je m'intéressais évidemment aux différents intérêts des jeunes et entre autres cette culture hip-hop qui m'intriguait, qui n'était pas du tout la mienne. Moi, j'étais plus issue d'une culture rock bien brestoise. Donc, j'ai, à travers les jeunes avec lesquels je travaillais au quotidien, moi, appris à connaître cette culture. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Flo, qui était un jeune du quartier et qui rappait. Et je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais il me semble qu'on organisait une fête de quartier tous les ans. Et il n'y avait jamais vraiment de jeunes dans cette fête de quartier. C'était plutôt la fête des vieux du quartier, des pétanqueurs en l'occurrence. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire parce que c'était un quartier qui avait énormément de jeunes. Et il y avait donc trois rappeurs sur le quartier, dont Flo. Et on s'est dit, on va peut-être mettre en avant la jeunesse dans le quartier et puis l'avenir aussi. Et puis faire découvrir cette culture hip-hop qui arrivait en France.
Ouais, je fréquentais le centre social de Pénard-Créache. La maison pour tous, excuse-moi. La MPT, ouais. Et du coup, on faisait souvent des colos, ça. En fait, moi, je fréquentais surtout le centre social pour aller faisait des vacances, quoi. On partait un petit peu autour de Brest, c'était super sympa. Et moi, je rappais en fait dans ma chambre déjà. J'ai toujours été un peu attiré par la musique. Et mes parents écoutaient beaucoup de musique, beaucoup de soul musique et des choses comme ça, du rock aussi, toutes sortes de choses. Et moi, j'étais attiré par le rap, quoi. Donc, je me suis mis un peu tout seul chez moi à commencer à écrire. Voilà. Et j'ai initié quelques potes à moi qui rappaient pas. Et du coup, on a monté un groupe qui s'appelait Processus à l'époque. Et voilà, et on avait une cassette, vous savez ce que c'est les cassettes musicales? On avait des postes avec des cassettes, voilà, on enregistrait des maquettes comme ça. Mais vraiment, c'était une qualité qui n'était pas terrible, quoi. Mais j'étais venu voir Marianne. Et Marianne, tout de suite, a dit, mais c'est génial et tout, tiens, il y a du rap dans le quartier. Et on a joué à la fête de la musique du quartier. Voilà, ça devait être en 97, je pense, 98, je pense, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Voilà pour notre rencontre avec Marianne.
Quel secteur jeune avez-vous fréquenté?
Moi, j'ai travaillé que dans. Enfin, bon, j'ai été. Avant d'être professionnelle de l'animation, j'étais bénévole dans une association, dans une commune de la métropole. Et après, je me suis professionnalisée et j'ai travaillé que sur le quartier de Pénard-Créache.
Flo, tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es lancé dans le rap?
Un peu comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une passion pour la musique. Donc quand j'étais petit, je prenais des casseroles, je tapais, je faisais de la batterie, je m'enregistrais. Mon frère avait un petit poste cassette comme ça avec un micro intégré. Il était toujours dans ma chambre le poste. Du coup, on était souvent en conflit parce que je piquais son poste. Mais ouais, ça est devenu un peu naturellement, quoi. Vraiment, vraiment une passion de la musique. Et le rap, ce qui est bien, c'est que c'est accessible. Il n'y a pas besoin de faire de cours de musique, du solfège. Voilà, on peut facilement prendre la parole, exprimer ce qu'on a à dire. Et je pense qu'il y a un côté un peu exutoire aussi là-dedans. Ouais, j'avais besoin de dire des choses, ça m'apaisait, quoi, on va dire. Toujours été passionné de musique, quoi.
Et où as-tu commencé à enregistrer?
C'était très difficile. Là, on n'est pas du tout dans la même époque. Moi, j'ai commencé en 97-98 pour accéder à un studio d'enregistrement. Il y avait le CCM à l'époque, qui est l'ex-Carène, quoi. C'était payant. C'était vraiment compliqué. En plus, c'était un milieu très rock. Il n'y avait pas beaucoup de rap à Brest, en fait. Même quand on allait sur des scènes, on était un peu perçus d'une façon un peu négative, quoi, on va dire. Il y avait, bon, le rap n'avait pas encore intégré la société comme aujourd'hui, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de place pour nous non plus par rapport à aujourd'hui. Et mes premiers enregistrements, bah, j'ai dû les faire voilà, avec un peu de moyens, quoi, on va dire. Je crois que c'était avec Abou à la MPT du Gamer, qui avait un multipiste. Donc voilà, il pouvait. On ramenait un vinyle, on samplait, on prenait un échantillon de musique qu'on aimait bien, on rajoutait une batterie et on pouvait commencer à s'enregistrer sur une instru, voilà, avec un multipiste, quoi. C'était vraiment du matériel très, très simple, mais qui nous a permis d'enregistrer des premières choses un peu de qualité, quoi. Voilà.
Bah, il faut dire quand même que fin des années 90, il n'y avait pas tous les outils dont vous disposez aujourd'hui pour enregistrer. C'était vraiment de la bricole. Et donc, du coup, comme il n'y avait pas beaucoup d'outils, donc les jeunes, les animateurs qui les accompagnaient, on devait vraiment se creuser la cervelle pour pouvoir avancer dans les passions des uns et des autres. Mmh. Et on n'avait pas, je me rappelle, moi, les danseurs hip-hop, ils regardaient des cassettes VHS pour pouvoir apprendre des pas. Les rappeurs, c'était pareil. Donc, c'était chacun essayer avec ses petits moyens d'aller trouver l'information, alors que maintenant, tu appuies sur ton téléphone, tu as l'info. Non, il y avait tout un travail de recherche qui était important et qui créait aussi une émulation entre les jeunes. C'était quand même assez collectif. Je pense peut-être plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, où on était obligé de se mettre à plusieurs pour arriver à nos fins. Donc les rappeurs, bah, pareil, ils montaient un groupe, ils réfléchissaient ensemble et pour aboutir éventuellement à une scène. Enfin bon, c'est un peu comme ça qu'on a bossé, essayer de gravir les marches petit à petit.
Et aussi aujourd'hui, à l'informatique, quoi, on n'avait pas d'ordi à l'époque. Et ça a tout révolutionné en fait, parce que maintenant on a un petit studio sur ordinateur, on peut trouver des logiciels gratuits, on peut, voilà. On n'est plus du tout dans la même époque, quoi, et ça a bien révolutionné les choses, quoi. Voilà, je suis venu vous enregistrer avec mon petit ordi, un micro, une carte son. Voilà, on a réussi à faire ça dans le foyer. Donc c'est quand même assez pratique, quoi.
De qui ou de quoi t'inspires-tu ?
De qui ou de quoi je m'inspire ? Bonne question. De quoi ou de qui, ouais. De la musique, enfin musicalement, j'ai beaucoup d'influence. Que ça peut être du blues, de la soul musique, ça peut être du hip-hop, ça peut être du rock, de la musique électronique, enfin toutes sortes de choses, du reggae aussi. En fait, vu que je fais du sample, en fait, je récupère je suis aussi producteur je crée des instrus, donc je m'inspire de toutes sortes de musiques. Et sinon, moi, j'ai un propos assez militant dans mes textes. Donc, je suis assez politisé. J'essaye de trouver des solutions, des choses. J'essaie d'exprimer des choses, en fait, des questionnements que j'ai. J'essaie de les mettre dans mes textes. Voilà. Et qui je m'inspire, de beaucoup de rappeurs aussi, beaucoup de rappeurs américains. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question.
Oui, ça.
Ouais.
Et quel était ton premier groupe de rap ?
Alors, mon premier groupe de rap, ça, c'est une bonne question. Et ça s'appelait Processus, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était avec Max, qui s'appelait Xema à l'époque, qui habitait le quartier aussi. On s'est rencontrés au quartier. Et on a eu de la chance, parce qu'à l'époque, il y avait la première compilation rap du Finistère qui venait de se monter, en fait. Et nous, on était les plus jeunes. La compilation, elle s'appelait du 109 pour le 29. Voilà. Et du coup, on est allé au CCM, c'était cette structure-là de centre création musicale à Brest. Et en fait, on a proposé une maquette et on a été sélectionné pour enregistrer dans le studio professionnel là-bas. Et le CD est sorti avec, voilà, il y avait une quinzaine de groupes à peu près sur cette compilation. Nous, on avait 15 ans, quoi, on était vraiment les plus jeunes. Donc grâce à ça, on a fait des premières parties d'artistes qu'on aimait bien à l'époque. On a fait quelques scènes. C'était vraiment une époque très dynamique, quoi. Et en plus, on traînait avec un groupe qui était un peu plus âgé. Donc on allait un petit peu partout. Enfin, c'était une belle époque, quoi.
Je peux rajouter, ouais, par rapport au 109 pour le 29. Donc c'était un concert qui avait lieu sous la mairie, salle des conférences. Je ne sais pas si vous connaissez.
Il y a eu le concert aussi. Ouais.
Et donc il y avait effectivement une bonne dizaine de groupes de rap de Finistère Nord, Finistère Sud, donc beaucoup de jeunes évidemment. Et je me souviens que donc moi j'accompagnais un peu les groupes de certains groupes de rap sur ce projet-là. Et l'après-midi de la répétition du concert, donc ils étaient en train de faire les balances, il y a l'élu à la culture de l'époque ou à l'animation, je sais plus comment l'appeler, qui est descendu comme c'était sous la mairie, ça faisait du bruit. Et lui et d'autres élus sont descendus et ils avaient tous peur. Ils avaient vraiment très, très peur que ça tourne mal parce qu'il y avait plein de jeunes, des rappeurs, des casquettes de travers. Enfin, ça ne plaisait pas vraiment. Donc, on était quand même fin
99, c'était...
En 99.
C'était avant les années 2000. Quoi.
Voilà. Ouais. Les élus de la ville de Brest tremblaient de peur de savoir qu'il allait y avoir des groupes de rap qui passaient sous la mairie, la salle pleine. Effectivement, on avait rempli la salle. Il y avait, bon, à l'époque, 700 personnes. Maintenant, on ne fait plus 700 personnes, ça, des conférences. Mais il y avait quand même 700 personnes dans la salle. C'était bondé. Mmh. Et le concert s'est passé normalement. Mmh. Il n'y a pas eu débordement.
Oui, il y avait cette idée que le rap c'était des ramène jeunes, de la violence. Mmh. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu, comme dans toutes sortes de musiques, hein, le rock, à une certaine époque, il y avait des sacrés aussi dans cette culture. Mais c'est le fait que tous les quartiers soient réunis. Il y avait Ponta, il y avait le Valir, il y avait Pénard-Créage, Bellevue, il y avait des quartiers aussi de Quimper et Carmoisan, tout ça. Enfin, voilà. Et du coup, ça faisait peur à ces gens qui n'avaient pas l'habitude de voir des jeunes s'exprimer. Ouais, c'est vrai que, bon, ça, il y a toujours un petit peu ce truc avec le rap aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus démocratisé quoi, aujourd'hui.
Et tous les animateurs qui accompagnaient ces groupes-là de tout le Finistère, ils ont vraiment dû, enfin moi je me rappelle, s'arracher et se battre et aller à la rencontre des élus pour essayer d'expliquer qu'il n'y avait pas de quoi trembler. Et ça a été un gros, gros boulot pour faire accepter ce concert sous la mairie.
Marianne, est-ce que quand tu étais jeune, les secteurs jeunes existaient déjà ?
Ben, moi j'ai commencé en 83. C'était le début un petit peu, enfin, en tous les cas, dans les quartiers populaires brestois, il me semble, de ce qu'on appelait les secteurs jeunes, les clubs ados, les clubs des jeunes, enfin, je sais pas comment on peut les appeler, mais souvent, ces clubs de jeunes ont été créés suite à des incidents. Enfin, moi, là où je travaillais, il y a un jeune qui avait mis le feu à la Maison pour tous. Et suite à ce feu-là, ils ont dit, ben voilà, il faut quand même prendre en compte cette population de jeunes sur le quartier. Et ils ont créé des postes d'animation. Mais c'est bien parce qu'il y a eu le feu, donc je le remercie, Bernard, d'avoir foutu le feu à la Maison pour tous, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai été embauchée.
Bon, le faites pas, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez leur parler. Si vous avez besoin de quelque chose, bon, aujourd'hui, on peut discuter.
Flo et Marianne, est-ce que quand vous étiez jeune, vous vouliez faire ce que vous faites maintenant ?
Moi, je ne voulais pas avoir de patron. Donc, je cherchais quelque chose où il n'y avait pas de patron. Et je ne voulais pas avoir de chef. J'aime pas les chefs. Donc, j'ai essayé de trouver un métier qui corresponde un peu à ça. Alors, bon, je dis ça, j'avais 19 ans. Je faisais partie d'une association, je faisais beaucoup de sport, j'encadrais les petits au basket, enfin ça me bottait bien. Et puis j'ai voulu m'orienter dans l'éducation nationale comme institutrice à la base. Et puis je me suis dit non, il y a trop d'hiérarchie là-dedans, ça va pas le faire. Et du coup ben voilà, j'ai été embauchée comme ça. D'abord sur un mi-temps, alors c'était la profession d'animateur, c'est une profession qui est jeune parce que le diplôme d'animation, le premier diplôme, il date de 1989. C'est quand même un diplôme récent et un diplôme d'État récent. Et donc moi, je me suis engagée d'abord bénévolement, puis après j'ai fait des centres de loisirs et puis après j'ai été embauchée vraiment sur un espèce de vrai contrat à mi-temps, puis après à plein temps, et je me suis formée au fil de ma carrière. Mais oui, j'ai toujours voulu transmettre, en tous les cas, accompagner des projets, valoriser les publics avec lesquels je travaille sans jugement et en me disant qu'il y avait toujours quelque chose de bien dans les gens avec qui on travaille.
Et moi, de mon côté, vu que j'avais vraiment une passion de la musique, je me sens vraiment chanceux aujourd'hui de pouvoir faire des ateliers, de pouvoir continuer à faire de la musique, parce que j'ai quand même 43 ans aujourd'hui, donc on dit que le rap c'était quand même quelque chose qui était destiné aux jeunes, et finalement, bah, la culture continue, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite d'âge non plus pour ça. Et, mais ouais, c'est une chance de pouvoir continuer cette activité, en tout cas, ouais, cette passion.
Flo et Marianne, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler avec des jeunes ?
Moi, je, avec les ateliers que je réalise, en fait, j'ai vraiment, je me suis rendu compte, en fait, j'avais cette fibre pédagogique, quoi, pédagogue, comme ça qu'on peut dire. Ouais. Et j'aime beaucoup, en fait, transmettre. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'enfance aussi là-dedans, d'avoir envie de donner des choses peut-être que j'ai pas eues. J'apprends beaucoup, en fait. On a l'impression qu'on apprend aux jeunes, mais en fait, les jeunes nous transmettent autant, en fait. Il y a vraiment un échange. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est d'être proche des nouvelles générations, en fait. Ça permet de pas trop vieillir soi-même, quoi, d'être à l'affût de ce qui se passe. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Hein. Enfin, j'aurais plein de choses à dire, mais voilà, j'ai dit un peu l'essentiel.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Flo. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien accompagner les gens, j'aime bien l'organisation en général, et j'aime bien mettre les gens en réseau, quoi. Par exemple, si on me parle d'un truc, un projet, je dis, tiens, tu devrais contacter machin, ça pourrait enrichir ton projet, on pourrait avancer plus vite. Enfin, j'aime bien mettre les gens en lien, j'aime bien le collectif, j'aime bien la force du collectif. Et j'aime bien aussi recevoir de la part des autres. Et moi, bon, voilà, j'ai 63 ans. Venir ici avec vous, je trouve ça hyper chouette. J'apprends aussi plein de trucs. Et ça permet de ne pas devenir trop une vieille conne trop vite, quoi, aussi. Quoi. Ça aide à ça, quoi.
De ne pas devenir aigri.
Voilà.
Ouais. Quelle activité il y avait quand vous étiez jeune?
Alors moi, je vais parler vraiment pour le centre social dans la maison pour tous de PRKH. Je crois qu'on avait fait une demande à un moment donné avec Marianne. Tu sais, on avait demandé d'avoir du matériel pour faire notre activité. En fait, on voulait avoir un petit matériel de base pour faire notre app. Et on avait fait une demande au directeur. On s'arrangeait pas trop avec la direction à l'époque. C'est plutôt Marianne qui nous soutenait. Et je crois que notre quartier n'était pas prioritaire non plus par rapport à d'autres quartiers. Donc, on n'a pas eu cette subvention. Donc, on se débrouillait un peu comme ça avec les moyens du bord. On avait la cave à vélo, je te rappelle pas, dans une salle qui avait beaucoup d'amiante, je crois. Après, il y a eu des travaux là-dedans. Donc, voilà, on n'avait pas beaucoup de choses pour s'exprimer. Mais en tout cas, Marianne, elle faisait son possible. Sinon, ben, moi, ce que je vois, c'est quand je fais le tour de toutes les structures, là, je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus accès à la culture. Comme le monsieur disait tout à l'heure, là, ce qui est important, ce n'est pas que les activités de consommation, comme aller au bowling, aller à la piscine. Enfin, c'est génial, il faut le faire et tout, mais c'est bien de proposer, comme là, par exemple, des ateliers radio, des ateliers de musique, de rap, toutes sortes de choses qui vont vous ouvrir, qui vont vous faire découvrir des passions, en fait, dont vous n'avez peut-être pas encore idée. En fait, ça permet de s'ouvrir à plein de choses. Et ça, je pense que c'est l'essentiel, en fait, je pense, de ces MPT, de ces foyers, tout ça. Parce que nous, on n'avait pas grand-chose, finalement. Il n'y avait pas tout ça, j'ai l'impression, à mon époque, quoi. On avait des voyages, par contre. Enfin, des voyages, on avait des colos. Super chouettes, en vélo. On faisait toutes sortes d'activités... Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses comme ça qui sont mises en place pour les jeunes, et je trouve ça super chouette. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore un lien entre vous deux ?
Marianne, tu veux répondre ?
Oui, parce que bon, moi, je ne travaille plus, mais je suis bénévole dans une association qui valorise la culture hip-hop sur Brest. Et dans le cadre de cette association-là, bah, évidemment que je fais appel à Flo, quoi. Évidemment.
Ouais, Marianne, on s'est revus, parce que moi j'ai quitté le quartier, et on s'est revus quelques années après, et elle m'a proposé de participer déjà à l'époque où elle organisait les rancards hip-hop, de redynamiser un peu la partie rap, et aujourd'hui, avec son association Kawan, elle me fait confiance, et elle m'embauche pour des ateliers d'écriture, que ce soit, on en a fait pas mal à l'Ermitage, à la prison avec des mineurs, au foyer Lec de Saint-Mar, ça peut être dans différentes structures. Voilà. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir Marianne. Ouais, vraiment, c'est un peu ma deuxième maman, j'ai envie de dire.
Ah non, c'est bon. Après, ce qui est important, c'est effectivement... moi, quand j'ai rencontré Flo, tu sais pas, t'avais 14 ans. Hein,
oui, c'est
ça. 14 ans. Et puis même, je trouve que c'est hyper valorisant pour moi, parce que dans le métier d'animation, on n'a pas beaucoup l'occasion d'être valorisé. On n'a pas beaucoup les résultats. Voilà, les jeunes, ils passent et puis après, ils s'en vont. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent forcément. Donc là, pour moi, de toujours côtoyer Flo, c'est une sacrée reconnaissance de ce que j'ai pu apporter à un moment donné dans son parcours, dans sa vie. Et puis de se retrouver et de bosser ensemble, c'est que du plaisir. C'est comme ça qu'on a pu mettre en place le projet. Je vois les graphes de Nazim là derrière, tout le projet hip-hop là sur le... dans lequel vous avez participé et qui donnera une grosse fête le 11 avril, il me semble, là, sur le quartier. Donc, ça permet... moi, ça me permet de travailler avec vous, de travailler avec Flo, de travailler avec Nazim. Enfin, voilà. La vie.
Flo, est-ce que tu arrives à vivre du rap ?
Un petit peu. En fait, pas vraiment directement avec mon rap. Donc, j'ai un nouveau groupe, là, et on fait des scènes, on essaye de développer le projet. Mais c'est surtout avec mes ateliers, en fait, mes ateliers rap et d'autres choses à côté aussi. Voilà, je suis intermittent du spectacle. Grâce à ça, ouais, grâce à tout ce que je peux faire, en fait. Mais c'est un peu difficile, quand même, de vivre de sa musique. Et d'ailleurs, c'était pas l'objectif. Hein. Moi, mon objectif, c'est vraiment de continuer cette passion et de faire les choses que j'aime surtout. Parce que quand on veut vivre de sa musique, des fois, il y a besoin de faire des compromis, il y a besoin de... Voilà. C'est en voie. En tout cas, ce serait l'idée, quoi. Mais, voilà. Mais par contre, j'ai mes ateliers rap à côté. Tout ça se complète, en fait. Ouais.
Maintenant, on donne la parole à Lucas.
Est-ce que le public, vous avez des questions? Je vous laisse réfléchir.
Marianne, c'est quoi, à tes yeux, le plus beau projet que tu as réalisé avec les jeunes en 40 ans de carrière ?
Bon, tous les projets sont beaux, hein. Enfin, je sais pas, ça peut être... Enfin, non, j'ai pas de truc. Non, je pense que tout ce que j'ai pu faire autour de la culture hip-hop qui a rassemblé énormément de gens venus de différents coins de la France, les artistes que j'ai pu rencontrer, les jeunes des différents quartiers, ouais, ça m'a vraiment botté, quoi. Mais aussi partir à la patinoire avec un groupe, je trouve ça chouette aussi, quoi. Je suis pas trop d'accord avec... je trouve que c'est important d'aller à la patinoire, c'est important d'aller à la piscine.
Ouais, j'ai pas dit que c'était pas important, j'ai dit qu'il fallait pas que ce soit que ça, quoi. C'est ça que je disais.
Enfin, non,
que
mais
c'est important d'avoir le côté culturel aussi, voilà.
À la patinoire, on développe plein de choses aussi. Non, donc, je trouve que tout a son importance. Oui. Même le moindre petit déplacement avec des jeunes dans un minibus, c'est important. Tout a son importance dès lors qu'on est en groupe. Donc, de plus beaux projets, non, je n'ai pas...
Moi, les rencarts hip-hop, peut-être,
hein. Moi, je kiffe tout. Moi. Ouais.
Vous avez d'autres questions ?
Une question pour vous deux. Quelle est la différence que vous observez entre les jeunes de ta génération, Flo, et les jeunes de la génération des jeunes qui vous posent des questions, là, aujourd'hui ?
En tout cas, ma perception à moi est différente, c'est sûr, parce que je n'ai pas le même âge. Je ne sais pas si c'est très objectif du coup, mais j'ai l'impression qu'il y a une inclusion un peu supérieure peut-être à l'époque, quoi, ou peut-être plus de choses, plus d'écoute, peut-être des considérations, j'ai l'impression. Et sinon, sur le caractère des jeunes, je pense que ça va avec aussi, vu qu'il y a plus d'acceptation et de considération, j'ai l'impression que les jeunes sont peut-être plus impliqué, plus respectueux, je sais pas trop. C'est difficile à dire, mais en tout cas, moi, à chaque fois, je vois j'adore toute cette génération-là. Je les trouve, vu le monde dans lequel on est, qui est un peu difficile, je trouve que vraiment, ils donnent beaucoup d'espoir. Voilà.
Ouais, moi, je pense que, pour comparer, je trouve que c'est plus facile, je pense, aujourd'hui, travailler avec enfin les jeunes sont plus plus cool quoi, plus sage même. Moi quand j'ai commencé à bosser, c'était chaud quoi, vraiment chaud quoi. C'était enfin physiquement, on allait au conflit aussi physiquement avec les jeunes, c'était ils faisaient vraiment des conneries quoi, enfin vraiment enfin combien de fois je me suis pas arrêtée en minibus sur la route parce que je pouvais plus conduire quoi, c'était trop le dawa dans le minibus, enfin et aujourd'hui bah là je reviens d'un séjour de ski, il y avait 40 jeunes, pas un mot dans le car quoi. Rien, quoi. Aucune remarque à faire. On n'est plus du tout sur les mêmes façons de se comporter. Et je pense que le jeune aujourd'hui, enfin les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus intégrés à la société aujourd'hui et plus respectés aussi. Et du coup, ils respectent plus les choses. Et non, je pense qu'il y a du plus, même si l'environnement sociétal aujourd'hui est quand même pas très drôle. Je trouve que moi, je suis assez épatée de voir... l'envie des jeunes d'avancer, de faire des choses, de créer, de partager aussi, quoi. C'est sans aller au conflit avec l'adulte, quoi. Conflit frontal, quoi. Il y a 40 ans, c'était vraiment... ouais, c'était chaud, quoi. Ouais.
Moi, j'avais une question. T'es allé dans combien de groupes et c'était lequel ton préféré ?
Combien de groupes ? Mon préféré, c'était le groupe... dans combien de groupes, déjà ? 3-4 groupes à peu près. Et j'ai eu une période aussi où je rappais en solo aussi. J'ai sorti 2 albums en solo. Mon groupe préféré, c'était... qui s'appelait Dernier Rempart, avec un ami qui est décédé aujourd'hui, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait 8 ans de plus que moi, qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a appris à la technique, à mixer, à faire des instrus. Enfin, voilà. Moi, à l'époque, j'avais qu'une voix et mes textes. Et il m'a vraiment permis de développer tout ça. Il s'appelait Shinobi et voilà. Et repose en paix, mon gars, c'était mon gars sûr. Voilà.
D'autres questions ?
J'avais 2 questions pour Marianne. Déjà, la première, c'est est-ce qu'il y a un secret pour cette vitalité débordante ? Et deuxième question, est-ce que tu t'es essayé à chanter du rap et à danser du hip-hop ?
Non, bon, la vitalité, bon, voilà, non, c'est parce que j'aime les gens, j'aime avancer, enfin voilà, c'est comme ça, c'est ma nature. Et en ce qui concerne tout ce qui est culture hip-hop, non, vous me verrez pas rapper ni danser. Par contre, organiser, mettre en place les choses pour que cette culture hip-hop puisse être mise en avant, oui.
Il y a d'autres questions ?
Mais juste rajouter quand même que dans cette culture hip-hop, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est j'ai retrouvé à travers cette culture-là les valeurs, alors qu'on dit valeurs d'éducation populaire, hein, qui m'ont accompagné toute ma carrière et qui continuent de le faire. Et ces valeurs de l'éducation populaire, du respect, de la solidarité, j'ai retrouvé ça dans cette culture. Et c'est aussi pour ça que j'ai accompagné les jeunes dans cette culture hip-hop et que je continue aujourd'hui à la valoriser.
S'il n'y a pas d'autres questions, Flo a quelque chose à vous dire ?
Ah oui, c'est le moment où on va écouter le morceau à l'écoute de mon groupe qui s'appelle Medusa Glow. Donc moi je suis dessus avec, enfin on est 3 rappeurs, donc il y a moi, T2 et Iwan. Et voilà, le morceau s'appelle à l'écoute comme le nom de l'album.
C'est ce que disent Zarathoustra à ses disciples. Hein. Reniez-moi, si vous m'aimez vraiment, ne m'aimez plus. C'est ce que devraient dire d'ailleurs les professeurs à leurs élèves. Certes, je vous communique un certain savoir, mais si vraiment je suis votre maître, vous devez prendre votre autonomie. Vous ne devez plus me suivre.
Ah ouais. Et du Zaglo. De tout classer, tout catégoriser. J'ai besoin de repères, mais l'excès d'ordre m'a toujours terrorisé. Et j'ai envie de moins parler, sentir le vent sur ma peau. Et puis ta main dans ma paume m'a soudain dépaysé. Moi j'aime la discipline, celle dans les yeux de ma petite fille, dans la soupe des 60s. Et puis je sais que je suis pas parfait, là n'est pas la question. On n'est que des êtres humains, vous mettez pas la pression. Faut pas être con, faut pas être indélicat. Quand j'étais petit, je kiffais Coca et Captain America. Et j'ai appris avec le temps que tout était relatif. Relatif comme le temps et les notes d'harmonica. Alors demande à Marco, demande à Mélissa. Tout ce qu'on a c'est l'amitié, parfois c'est insaisissable. Après chaque montée, il y a l'atterrissage. J'ai pas besoin d'un sermon, j'ai besoin d'un paysage. Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute,
peu importe qui m'écoutera.
Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute.
Tiens, je me sers de mon instinct, de mes ressentis. C'est pas toujours facile de les retranscrire. La boule, la rage, la colère, parfois m'ont anéanti. Maintenant je tente d'écouter mon cœur chaque fois qu'il retentit. Hey yo, je fais plein d'erreurs et j'ai du mal à l'admettre. S'il te plaît, épargne-moi tes jugements, me font mal à la tête. Claire, frérot, y'a rien de pire que d'être tout le temps amer ou aigri. C'est jamais tout noir, tout blanc, et même souvent tout est gris. Il faudrait qu'on communique, faudrait que tu me parles. Ne reste pas isolé comme une île. C'est pas facile, t'as le seum, mais sache que t'es pas tout seul. J'ai peut-être sorti de mon bunker, mais j'ai pas paumé ma boussole. Tu sais. Et ouais, parfois faut savoir tourner la page. Et puis se rappeler qu'on est tous de passage. C'est clair que sur 8 milliards, on pourra pas tous s'entendre. Faut avancer, peut-être qu'un de ces quatre, on fera la route ensemble.
Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute,
peu importe qui m'écoutera.
Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute.
Je n'ai vraiment pas besoin que tu m'infantilises, que tu réévoques tous mes échecs, mes déboires. Je sais pleinement ce qui m'appartient ici. J'en reste et restera uniquement ma mémoire. J'ai grand besoin d'entendre mon fils rire, de choses simples pour sentir mon anxiété décroître. Des papouilles le matin, le meilleur élixir, du baume au cœur et puis la nuit, admirer les étoiles. Après tant d'années sans le moindre équilibre, dans la fume qu'accentue le spleen, le désespoir. De qui que ce soit, je ne voulais être le disciple. J'avais peut-être une ouverture d'esprit un peu trop étroite. Aujourd'hui j'allie méthode et patience empirique. Je m'apprivoise avec les mots, je change ma trajectoire. Je m'oxygène, j'acquiers le feu des forces invisibles. J'entretiens l'amitié précieuse, des faux je m'en éloigne.
Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute,
peu importe qui m'écoutera.
Et puis les jours où j'ai des doutes, repense à Zarathustra. Je voulais rendre le monde meilleur, mais il est pas là pour ça. Et j'ai besoin des fleurs du mal, besoin du Kama Sutra. J'essaierai d'être à l'écoute.
Il faut que vous affrontiez maintenant Zarathustra. Parce que ce qui est génial chez Nietzsche, c'est que c'est un penseur qui nous pousse dans nos retranchements, vous voyez. Nietzsche, on ne peut pas l'aimer complètement. Il fait tout pour n'être pas aimé. Nietzsche est toujours dans cette ambivalence, vous voyez. C'est-à-dire que les grands systèmes de pensée qui ont emprunté à Nietzsche, les anarchistes par exemple, un très beau livre qui s'appelle Dionysos au drapeau noir. Dionysos au drapeau noir. Tout est dit.
Merci à Flo pour ce joli petit morceau et merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va passer au quiz sur le foot de moi et Shaina.
Combien est-il de joueurs dans une équipe sur le terrain ?
11.
Oui, c'est, oui ça. C'est ça.
Quel pays a gagné la Coupe du Monde en 2022 ?
L'Argentine ?
Oui. Quel joueur de France a raté son face-à-face à la dernière seconde ?
Oui.
Randal Kolo Muani.
Oui.
Ah.
Comment appelle-t-on trois buts marqués par un joueur dans un match ?
Un triplé ?
Oui.
Quelle partie du corps le gardien peut-il utiliser dans sa surface ?
Tout.
Oui.
Tout.
Oui.
Tout.
Qui est le gardien de l'équipe de France actuelle ?
Quelqu'un sait ? Ah oui.
Mike Maignan.
Oui.
Combien de temps dure un match ?
Oui.
90 minutes.
Oui. Quel club a remporté le plus de Ligues de Champions ?
Le Real Madrid ?
Oui.
Combien de clubs français ont gagné la Ligue des Champions ?
Oui.
Deux.
Lesquels ?
Marseille et Paris.
Quand ?
Oh, Marseille, ça date. Ah,
Marseille, Marseille en 1993, sur un but de Basile Boli. Wow. À la 44e minute. Je suis supporter marseillais, c'est dur en ce moment. Et Paris en 2025.
Ouais. Bravo. Ouais.
Combien a-t-il d'assistants pendant un match ?
D'arbitre.
Quelqu'un sait ?
D'arbitre.
Nique assistant.
Il y en aurait trois ?
Oui.
Les
oui.
deux de touche et le quatrième ?
Oui.
En quelle année Zinedine Zidane a fait son premier coup de boule à Materazzi ?
Oui.
À 2006.
Oui.
Oui. Ouais.
Après ces quiz, nous donnons la parole à notre camarade Joshua.
Merci aux invités Marianne, Flo, Mathieu et Alain d'avoir participé à l'émission du Foyer Laïque de Saint-Marc. Merci aux animateurs du Foyer Laïque de Saint-Marc qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Un grand merci à Quentin de Radio U qui nous a fait découvrir le fonctionnement d'une radio et la réalisation d'une émission. Un grand merci à Chloé pour la technique. Et puis on voudrait aussi remercier la ville de Brest et l'Union européenne qui nous ont soutenus, qui ont soutenu notre projet dans le cadre du dispositif Science Come to Town, ainsi que la CAF via l'appel à projet On se lance ensemble. Pour suivre nos futurs projets, n'oubliez pas de vous abonner au compte Insta Jeunesse FLSM. Et merci au public et bonne soirée, au revoir.
Bien. Bien.